France Culture.
En Kabylie, les familles vivent au quotidien, les hommes au champ et les femmes au foyer. Et les femmes, donc, de moments où elles n'ont rien à faire, se créent des loisirs. Et ces loisirs sont dans la fête. Et ce sont avec le tambourin, le bendir et la voix, et les mains et la danse.
La veine satirique est d'une fertilité extraordinaire. Et alors, tous les ridicules étaient chantés. Ah oui, 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 depuis l'adolescent qui a une ombre de moustache et qui veut se marier, jusqu'au vieux beau, en passant par la vieille coquette, en passant par les mal mariés, dès qu'il y avait matière à châtiller ou à souligner un ridicule, alors on n'y coupait pas.
France Culture,
la série musicale Zoé Sfez.
Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission, l'émission toujours libre de tous les récits, de tous les portraits. Une heure de radio sur la musique. Et en musique, c'est la série musicale, bienvenue. Nous ouvrons sur un clin d'œil ce nouvel épisode de notre série Diva sur ce son du groupe Kylie Minogue. Notre série consacrée à ces chanteuses dont la voix est admirée, adulée pour la particularité, la richesse ou la douceur de leur timbre, bien sûr, un timbre reconnaissable entre tous, pour leur talent musical, mais aussi, et surtout peut-être, pour ce qu'elles représentent culturellement. Le mot « diva », qui vient de l'italien « déesse », correspond en fait à ces chanteuses qui sont des figures dont le statut est plus grand, plus large en fait que leur œuvre seule, qui racontent quelque chose de fondamental pour ceux et celles qui les écoutent, les chérissent, et qui, parfois, ne sont absolument pas connues en France autant qu'elles devraient l'être. Le cas des divas dont nous allons parler cette semaine, de ce point de vue, est un peu particulier, puisque la grande majorité des Français ne connaît ni leur timbre ni leur langue, mais il y a tout de même une très riche communauté qui les écoute, et pas qu'un peu. À l'approche du 20 avril, date gravée dans la mémoire des Kabyles, c'est bien les divas Kabyles que nous allons célébrer, dont nous allons entendre les voix aujourd'hui, le 20 avril. Commémore en réalité le soulèvement des printemps kabyles et berbères des années 1980, 1981 et 1990, soulèvements qui ont marqué des moments importants de la lutte pour la reconnaissance d'une identité, d'une langue, d'une culture kabyle qui réclame le droit à l'autodétermination depuis un sacré bout de temps. Cette lutte, elle a été portée évidemment par la poésie, les voix et les musiques des grands compositeurs, poètes et chanteurs kabyles, mais aussi par la voix de ces femmes qui, depuis peu ou prou, trois générations, se sont imposées dans ce double espace marginal. Celui de l'identité kabyle dans un pays, l'Algérie, qui n'a cessé de vouloir en grande partie la dissoudre dans la notion d'État-nation algérien, et celle qui consiste à chanter en étant une femme dans une culture kabyle relativement peu mixte, mais où la place des femmes, mais aussi de la musique et de la poésie, sont évidemment essentielles. Elles s'appellent Tao Samrouche, Sherifa, Hnifa, Malika Domran, Noura, Njoura. Elles chantent autant la liberté et la beauté de ces fameuses montagnes kabyles, autant qu'elle chronique cette société kabyle, la lutte pour l'indépendance et l'amertume parfois de cette condition féminine qui n'a cessé d'évoluer mais reste bien sûr difficile. Entre Tizi Ouzou, Alger et Paris, elles ont été parfois encouragées, parfois complètement snobées par évidemment leurs congénères masculins. Et pourtant, elles n'ont rien à envier en termes de talent, d'aura et même de récit de leur identité au légendaire Idir, dont la mort fut pleurée par tous les Kabyles et même de manière générale par la plupart des Algériens. Hommage donc et galerie de portraits comme toujours, non exhaustive et ô combien subjective dans la série musicale sur France Culture. Les voix de Marguerite Tao Samrouche, dites tout simplement Tao Samrouche, et celle du cœur de femme Sida. Vous écoutez ici deux voix, vous écoutez surtout une langue, c'est cette langue kabyle. Notre culture, essentiellement de tradition orale, ne s'est exprimée que récemment à travers l'écrit. Elle a été pour sa plus grande partie développée, entretenue par les femmes. Elle pratique toutes les activités artistiques et artisanales possibles, la peinture, la poterie, la poésie, le tissage, en plus de leurs tâches ménagères qui n'est pas des moindres. Soumises, souvent brimées par les hommes, elles portent dans tout cela, avec tout cela, une solitude intime et douloureuse. Et la chanson notamment traduit largement le fait qu'elles soient en vie. Chanter pour nos femmes est une vocation obligatoire, née d'une révolte exprimant un besoin d'exister en permanence. C'est pour ça que leur musique contient la charge émotionnelle et l'authenticité bouleversante propre aux personnes minoritaires. Mais elles chantent aussi l'amour et la vie avec son lot de joie et de peine. Leur chant prévient lorsqu'il est temps, guérit quand il est trop tard. Il sait aussi aimer par-dessus tout, caresser et prédire qu'un temps viendra bientôt, il faudra compter avec elles. C'est un extrait du texte magnifique qu'écrit le fameux chanteur Idir. Idir qui fut cet immense phare dans la nuit hein, pour les Kabyles, évidemment en Algérie, mais aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Idir qui a beaucoup chanté, beaucoup été aimé, beaucoup compté pour la très très grande immigration kabyle en France. Car qu'est-ce que la Kabylie, c'est cette région emblématique qui doit faire face depuis, disons, l'indépendance algérienne, à la fois au pouvoir central algérien, aux islamistes aussi pendant les fameuses années de plomb, et qui l'a payé très cher. Hein. Beaucoup de grands musiciens kabyles, le chanteur populaire Lounès Matoub, tué en 98, et puis des artistes comme Ferhat ou Loni Saïd Mengelet ont été emprisonnés justement pour l'usage, pour avoir fait usage de cette fameuse langue kabyle. Cette langue qui aussi correspond à toute une culture, tout un rythme de vie, un équilibre très fort entre agriculture, tradition orale, ces fameuses Walia kabyle, ces montagnes où il fait doux l'hiver, une grande chaleur aride l'été, qui portent une culture ancestrale, millénaire, faite de peuples et de figures légendaires. Une culture qui est donc minoritaire en Algérie, mais majoritaire en France, puisqu'il y a près d'un million de personnes, un peu plus, qui se sont établies en France depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Une communauté kabyle qui est très attachée à ses racines, à sa culture, avec des associations qui sont presque encore plus puissantes en France qu'en Algérie. Évidemment, je vous ai cité des noms d'hommes, car la poésie est omniprésente, mais la culture kabyle, c'est cette culture orale. Et la culture orale, bien sûr, elle est entretenue, elle se raconte par et avec les femmes. La femme kabyle, on la sait festive, on sait aussi qu'elle travaille beaucoup, on sait qu'elle a une forme d'indépendance, de force, toute une série de textes, de poèmes, justement, dans la très longue culture kabyle, qui donne ses qualités à cette femme kabyle, extrêmement courageuse, parfois irascible. Une culture où donc la femme a une place très importante dans le foyer, mais une culture aussi où les deux sexes vivent de manière très séparée. Comme le raconte Baya, elle est choriste, si on peut utiliser ce terme, elle chante dans un groupe de femmes et elle a notamment accompagné l'une des plus grandes chanteuses kabyles, celle qui a permis à tout le pays finalement de connaître, de faire vivre, d'écouter cette tradition orale, cette tradition musicale typiquement féminine, où la plupart du temps la voix reste le plus bel et quasiment le seul instrument, à côté de quelques percussions, essentiellement le bendir, ce tambourin que vous entendez ici pour marquer les temps. Cette grande chanteuse s'appelle Chérifa.
En quelques mots, oui. En Kabylie, les familles vivent au quotidien, bien sûr, les hommes au champ et les femmes au foyer pour élever les enfants et accomplir les tâches quotidiennes, quoi. C'est-à-dire le ménage, l'éducation des enfants, le repas. Et je crois que c'est ça que les hommes...
On l'accueil ne voit pas de l'étranger, trop, l'accueil du visiteur.
Absolument, l'hospitalité. C'est-à-dire qu'on ne voit pas trop souvent les hommes à la maison. On les voit à l'extérieur. Leur travail, eux, c'est de travailler les champs parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et les femmes, donc, de moment où elles n'ont rien à faire, elles se créent des loisirs. Et ces loisirs sont dans la fête. Et ce sont avec le tambourin, le bendir, et la voix, et les mains, et la danse.
Oui, le bendir accompagne, et la derbouka sont des percussions qui accompagnent pratiquement tout le temps.
Pas le kabyle. Le kabyle, il n'y a que le bendir. La derbouka est venue après.
Après.
Par d'autres civilisations.
Yeah.
dans cette chanson d'une jeune femme qui veut danser, d'un vieux sévère qui la regarde. Elle a voulu danser comme une puce, comme un insecte. Je fus très étonnée de la grâce qu'elle avait. Je fus étonnée car elle se tortillait. Elle a voulu danser et j'ai été étonnée qu'elle se laisse voir. Azwa, une chanson typiquement issue de la tradition musicale féminine, kabyle, portée par l'une des voix les plus importantes, en tout cas l'une des premières à braver ce tabou ultime qui consiste à faire de la musique son métier. Vous écoutez Chérifa, dite Chérifa la Grande ou Chérifa la Noble, née en 1926 en petite Kabylie. Toute petite, on l'envoie faire paître le troupeau familial. On est évidemment dans une société agricole avec un patrimoine immatériel régulièrement d'ailleurs salué par l'UNESCO. Elle découvre qu'elle a un joli petit filet de voix. Elle est tout de suite l'une des plus grandes chanteuses de ces lieux de fêtes entre femmes qui sont omniprésents dans l'intimité des villages kabyles. Même si, explique dans un livret entièrement consacré, d'un album entièrement consacré à Chérifa, l'auteur Rabah Mezwan, en Kabylie comme dans d'autres sociétés imbibées d'islam, si on apprécie les musiciens, on ne souhaite jamais pour autant en avoir des professionnels dans sa famille. Chérifa est très tôt orpheline de père, placée sous la tutelle de ses oncles, ce qui est toujours le cas après leur mariage de sa mère, et finalement à 18 ans, elle décide de s'en aller. Elle n'a jamais été scolarisée, elle est quasiment analphabète, bien qu'elle maîtrise fatalement du coup cette langue kabyle extrêmement difficile à apprendre. Si un jour vous vous lancez dans cette entreprise, bon courage à vous. Une langue sublime, immémoriale, presque tonale, extrêmement riche, extrêmement poétique. Dans le train qui la conduit vers la capitale, Alger, elle va composer un titre, Agbou Adieu, qui va faire sa renommée. Elle chante à la radio et devient l'une des toutes premières stars féminines de la radio algérienne, mais aussi l'une des toutes premières stars kabyles qui chante en kabyle avec un cachet qui équivaut à l'époque à 700 francs. C'est une somme absolument énorme qui va faire d'elle la plus grande chanteuse kabyle entendue à l'époque. Mais évidemment, le prix à payer est très élevé. Ses oncles cherche absolument à la tuer, car évidemment, il faut réparer cette brèche de l'honneur qui consiste à avoir une nièce qui chante, qui s'exhibe à la radio. Pendant des années, elle va tourner un peu partout en Algérie, beaucoup enregistrée, essentiellement passer ce fameux patrimoine folklorique kabyle, qui tous ces morceaux seront des succès. On compte sans doute entre 600 et 700 chansons dans son répertoire. Elle a, comme bien des femmes qui ont brisé des tabous, ont été pionnières, on en a parlé quand on parle des divas grecques, quand on a parlé des divas algériennes, payé le prix fort entre l'opprobre et sa famille qui la rejette, le fisc algérien qui la dépouille, évidemment le fait qu'il n'y a aucun droit d'auteur attaché à ce qu'elle chante, ce qui fait que dans les années 70, à la fin de sa vie, elle s'arrête de chanter avant d'être redécouverte par quelques grands et jeunes chanteurs qui l'ont évidemment, on en a déjà parlé quand on parlait du rail, un petit peu pillé au passage, défendu notamment par une femme, par un chanteur comme Idir. Elle s'éteindra relativement tard, enfin reconnue. Chérifa, en fait, c'est un peu une source à laquelle vont s'abreuver finalement toutes les générations de chanteuses suivantes. Chérifa, c'est ses enregistrements, cette présence à la radio qui permet aux Kabyles en Kabylie, mais aussi aux Kabyles qui sont présents à la capitale ou qui ont émigré en France, de maintenir ce lien avec cette culture rurale qu'ils ont quittée. C'est le cas d'une jeune femme qu'on pouvait entendre sur France Culture en 1985 dans l'émission Les Magiciens de la Terre. Elle racontait comment elle était devenue choriste, justement, dans une chorale de chanteuses kabyles, alors qu'elle n'avait pas grandi du tout avec ce répertoire. Tout cela grâce à la discographie de Chérifa.
Chérifa, vous pouvez nous la présenter en quelques mots cette grande dame de la chanson.
C'est notre Madone. On l'appelle la dame à l'olivier parce que l'olivier, c'est quelque chose qui représente beaucoup, cet arbre qui représente beaucoup là-bas chez nous en Kabylie. Et quand on parle de Chérifa, on parle de la dame de l'olivier. Alors moi, j'ai pas eu la même joie que mes collègues parce que moi, je suis venue en France à l'âge de 1 an, donc bientôt 50 ans. Donc je n'ai pas été bercée comme elle par la musique directe de Chérifa. Khalifa, parce qu'elles, elles ont pu avoir l'occasion d'assister à des fêtes, des mariages, tout ça, que moi, j'étais dans une famille où on vivait, on est arrivé dans la première émigration, donc c'était le travail, et puis on était tout seul, il n'y avait personne de notre village, là où on habitait. Donc moi, je n'ai pas connu tout ça. Mais ce que je me souviens de Khalifa, c'est ma maman, qui, quand elle était gaie, quand elle était triste, eh bien, fredonnait toujours les chansons de Lech Khalifa, qui lui rappelait, eh bien, ses origines, son pays.
L'immense Khalifa Atagrams, on est sur une version plus vieillissante de cette Khalifa qui vivra longtemps, et qui, comme vous l'entendez, est la Madone des Kabyles, la Dame à l'Olivier, la Khalifa. Elle n'est pas la seule, évidemment, hein, et on ne pourra pas entendre les voix de toutes ces divas kabyles. Elles sont nombreuses, elles ont toutes des caractéristiques, des destins assez différents. Écoutons bientôt celle de Djamila, de son vrai nom, Djora Bachen, qui fut une actrice, une animatrice, une chanteuse de musique traditionnelle kabyle. Elle est née à Ait Bouhini. Elle est elle aussi orpheline à l'âge de 12 ans. Souvent, c'est l'une des caractéristiques de ces premières générations de pionnières. À la fois, elles sont d'une certaine manière libérées de l'emprise du père, et en même temps, elles sont un peu forcées à tenter de gagner leur vie. Elle, ce qui va se passer, c'est qu'elle va rencontrer une grande chanteuse kabyle, Shaba, qu'on ne pourra pas écouter, qui la prend sous son aile, qui va l'introduire dans ce monde de la radio, hein, qui devient fondamental, puisque c'est par là que se transmettent évidemment les voix, les récits, les poèmes. Elle fait ses premiers pas dans les années 50 sur la chaîne 2, qui est la radio algérienne en langue amazigh, donc en langue kabyle. Elle va rejoindre la chorale féminine, justement, à laquelle participent Khalifa, mais aussi Hanifa et Nouara, qui sont les trois grandes divas de cette première génération. Elle va interpréter plusieurs grandes chansons dans le style kabyle dit Achewik, car le style kabyle a lui aussi plusieurs registres, registres et thèmes. On a évidemment des chansons qui donnent à entendre des soupirs d'amour, des chansons beaucoup plus en forme de chronique, et des chansons qui sont entièrement dédiées à la louange religieuse, évidemment, c'est ce qu'on appelle les dhikrs. Tous des récits et des traditions qui ont évidemment des rythmes différents. Écoutez-la ici, lors d'une apparition à la télévision, où le présentateur, à couper ce moment, prononce son nom plusieurs dizaines de fois. Elle va devenir une grande actrice au cinéma, à la télévision. C'est cette période où on mène ses trois carrières à la fois, et elle mourra en 2020 à Alger. Elle reste dans le cœur de tous les Kabyles.
Let's
Jamila, et vous entendez la réaction de ce public dans la télévision algérienne du début des années 60. Figure très adulée qui fait vraiment partie de cette première génération de chanteuses qui s'imposent, de chanteuses kabyles qui s'imposent à la télévision, qui toutes, effectivement, vont à la fois chanter l'indépendance algérienne, mais aussi la Kabylie, mais aussi la place des femmes, qui vont payer quand même le prix fort, on l'a entendu. En parallèle de cette première explosion, on va dire, des chanteuses kabyles à la télé et à la radio dans les années 50, il y a eu cette personnalité, cette figure très particulière auquel France Culture a déjà consacré un excellent Toute une vie qu'on vous invite ardemment à réécouter. C'est cette figure singulière de cette autrice, cette poète, cette immense chanteuse kabyle que fut Tao Samrouche. Tao Samrouche qui, paradoxalement, n'a quasiment jamais vécu en Algérie et n'a jamais pu se produire en Algérie. Car Tao Samrouche, c'est cette femme qui est née de parents en Kabylie, hein, qui est née de parents kabyles, mais qui s'était convertie au christianisme et rejetée par leur famille. Ils sont obligés d'émigrer en Tunisie. C'est à Tunis que leur fille, donc, naît en 1913. Elle y passe une enfance assez solitaire entre la langue kabyle maternelle et la langue française, qui est sa langue d'éducation. Elle va devenir une femme de lettres, être l'une des premières femmes a publié en français, une des premières algériennes a publié en français toute une série de livres absolument magnifiques. Mais en réalité, ce qui est intéressant avec Tao Samrouche, c'est par la musique et par les musiques fredonnées par sa mère et la culture orale qu'elle entretiendra toute sa vie ce lien avec son identité kabyle, un lien qu'elle va développer puisqu'elle va devenir l'une des plus grandes collecteuses de chants et de morceaux en fait kabyles, des chants qu'elle va à la fois collecter puis interpréter avec cette distance qui fait qu'elle est très loin finalement du lieu où cette musique continue de vivre. Écoutez cet extraordinaire Tao Samrouche raconter son lien à cette culture orale. C'est une archive longue, mais tout aussi poétique et puissante qu'elle-même l'était.
Cette civilisation ou cette culture orale est tellement vivante. Elle m'alimente tellement qu'elle est presque la moelle de mes os. À longueur de jour et de nuit, et quelles que soient les circonstances, il se trouve toujours un poème, un proverbe, une sentence qui s'applique absolument à la situation et qui, ou bien me projette en avant, me fortifie, ou bien au contraire, me pacifie, me rend consentante. Toujours. Je vis sur eux. Et comment dire? J'allais dire sur deux plans, et non, parce qu'ils sont réconciliés au fond de moi. C'est difficile à dire. C'est presque de l'ordre de l'ineffable. Voyez-vous? Alors, je vous parle. Et si je suis prête, par exemple, à jeter le manche après la cognée, voilà encore un beau proverbe, mais celui-là est français. Et j'entends ma mère, avec cette voix superbe qu'elle avait, tellement riche d'expérience, de sagesse. Ah, Tao Seiling, Allons, allons, ma fille, allons. Encore un peu d'espace dans ton esprit, élargis ton esprit, ou ne donne pas, ne prête pas ton flanc à la terre. Ne te couche pas encore. Debout, vaillance.
Taos Amrouche, cette voix presque de soprane qui confine quand on l'écoute parfois, une voix aussi empreinte de toute une culture religieuse qui serait du côté du cantique. Et une mélodie berbère, transmise donc par sa mère, vous l'avez entendu, sa mère c'est l'écrivaine Fatma Ait Mansour. Taos Amrouche qui va passer quasiment toute sa vie à faire reconnaître cette langue berbère, ses traditions orales, et qui va essayer de transcrire et donc d'interpréter, même si elle ne connaît que très peu la musique et qu'elle est assez consciente qu'elle est loin finalement de la pratique telle qu'elle se fait en Kabylie, puisqu'elle n'y a que très peu accès. Elle va collecter néanmoins ses chants, ses contes de ses ancêtres. Elle a réussi tout de même à poser et à inscrire un héritage qui aurait été complètement menacé, évidemment, dans une culture de l'écrit et dans une culture, évidemment, qui pousse toute une foule de vies et de populations rurales vers la ville, l'exil, où ces langues, justement, ces langues se meurent. Elle le dit elle-même, sans doute, c'est parce qu'elle a grandi dans un espace où personne d'autre que sa famille ne parlait sa langue qu'elle a pris conscience de l'urgence à sauver cet immense patrimoine. On vous invite à découvrir sa très riche discographie, où elle a à la fois ses voix de soprane, parfois des voix beaucoup plus graves, notamment quand elle chante, elle, justement, elle chrétienne, des chants religieux dédiés justement à la gloire du prophète. Mais elle a évidemment aussi compilé toute une série de chansons beaucoup plus joviales, beaucoup plus triviales, des chansons qui apparaissent finalement dans la vie, car il y a toujours une chanson pour un moment de la vie, comme elle le racontait.
On berçait, c'était la voix. On travaillait, il y avait des chants spécifiques. Quand vous étiez en train de tisser, quand vous étiez en train de moudre le grain, il est évident que cela était rythmé et accompagné par le chant. Vous deviez fêter l'apparition de la première dent de lait d'un nouveau-né. Eh bien, on organisait une sauterie. Toutes les femmes étaient invitées, et on faisait des beignets, et là, on chantait des chants satiriques, le chant de la belle-mère, par exemple, attendez, ah oui, ça c'est très amusant chez nous, parce que la veine satirique est d'une fertilité extraordinaire. Et alors, tous les ridicules étaient chantés, chansonnés, si vous voulez. Ah oui, depuis l'adolescent qui a une ombre de moustache et qui veut se marier, jusqu'au vieux beau, en passant par la vieille coquette, en passant par les mal mariés, tous les âges de la vie. Dès qu'il y avait matière à châtiller ou à souligner un ridicule, alors on n'y coupait pas. Thank you.
reprennent berceuse au clair de lune. Dans la voix de Tao Samro, je vous écoutais ici une chanson qui s'appelle « Ô tante Malha, ô ma tante gracieuse ». Vous entendez cette voix, ce fameux petit tambourin. Et cette évocation, justement, de toute une série, évidemment, de registres différents. La chanson satirique, la chanson plutôt religieuse, la chanson d'amour, la mélopée, la chanson dédiée au travail des chants. Cette tradition orale et musicale qui passe notamment par les femmes, elle est hyper riche et elle va commencer à se modifier, justement, grâce, évidemment, à l'émergence de la radio et grâce à l'audace de ces premières chanteuses, de cette première génération qui a tout donné. Il y a un nouveau registre extrêmement, on va dire, audacieux qui naît dans les années 50 à la radio. C'est le registre du duo homme-femme. Un chant chanté à la fois par les hommes et par les femmes, qui en réalité était complètement proscrit, puisque, comme le rappelle dans un magnifique livret consacré à ces duos hommes-femmes qui deviennent un genre à part entière, l'homme et la femme kabyle sont comme le soleil et la lune. Dans la société villageoise kabyle, ils se voient mais ne se rencontrent jamais. Les vocations amoureuses génératrices de troubles, de gênes en collectivité, et dès lors reléguées au milieu désert où seuls les bergers, rassurés par la solitude ambiante, peuvent en toute impunité donner libre cours à leur imagination poétique, sentimentale ou érotique. D'où l'arrivée en littérature orale kabyle d'un genre qu'on appelait Isefraï Meksa, poème bucolique, perçu comme un registre d'expression peu sérieux, léger et somme toute très inconvenant, par opposition au chant religieux doué à la fois de profondeur et d'élévation. Il y a donc tout un registre de joutes poétiques entre garçons, pratique exclusivement masculine, qui va finalement bouger avec l'émergence justement de la radio. Et finalement, ce sont des duos hommes et femmes qui, pour la première fois, peuvent exister en langue kabyle. Vous allez écouter un duo extrêmement important avec deux voix cruciales dans la culture kabyle, celle de Kamal Hamadi, qui est sans doute l'un des meilleurs et des plus grands chanteurs et compositeurs de musique kabyle, et celle de l'immense diva Hanifa Yidem Yidem.
يذم الورد لقاق لو كان الفرق السلبا تملاش ضي الزين رقاق ألا شمين أيش سبا ألا شمين أيش سبا يسام يزهو الميخاق يذم يذم المحبة مثوغة نوار يذم يذم المحبة مثوغة نوار
يذك يذك يا لما يفنى العمار يذك يا لما تنهوت يذك انت لا
Vous entendez la douceur de la voix de Kamal Hamadi et la voix extrêmement grave et pleine de grain de l'incroyable Hanifa, surnommée l'Edith Piaf de la Kabylie, qui a eu, à l'image d'Edith Piaf, une vie courte, extrêmement douloureuse et qu'elle arrivait évidemment à exprimer très très bien dans ce timbre où on sentait l'expérience. Elle est née Hanifa dans un village près de Tizi Ouzou en 1924. Elle a, elle aussi, une famille nombreuse, extrêmement pauvre, un peu comme chez Rifa, qui est un peu de la même génération. Grande fragilité économique. Finalement, son père décide de la marier à un ami à elle, à peine 14 ans. Elle réussit à s'enfuir, elle est résolue justement à quitter cette société et cette famille trop complexe. Entre-temps, son frère qui la soutenait meurt, sa mère est répudiée. Elle se marie une deuxième fois et elle divorce, là encore, ne supportant pas la manière dont on la traite, mais elle a cette fois une fille à charge. Et alors qu'elle est passionnée de musique, elle est récupérée encore une fois par Lala Yamina, qui dirige un groupe, une chorale, où on chantait Sherifa, Ourida, El Jida, toutes ces divas première génération. Et c'est par l'intermédiaire de ces femmes-là qu'elle intègre un groupe où elle pourra chanter à cette fameuse Radio 2, la radio algérienne en expression kabyle, où elle va animer une émission hebdomadaire. Elle a un troisième échec matrimonial, ce qui est déjà beaucoup, et décide de quitter Alger pour Paris. On est avant l'indépendance, elle s'installe pendant 2 ans, et c'est là que d'ailleurs, elle va vraiment porter cette tradition des chansons kabyles dans les cafés, dans les bistrots des immigrés kabyles. Elle y rencontre Kamel Ahmadi, vous entendez ici, une ancienne connaissance, et donc ils vont monter ce duo. Yedem Yedem, c'est le premier duo homme-femme à être entendu à la radio. Ça va créer toute une tradition. Il va lui écrire une douzaine de tubes qui vont être les plus importants de son répertoire. Et après l'indépendance, elle retourne en Algérie. Elle passera sa vie à faire des allers-retours entre l'Algérie et la France avant de s'éteindre en 81 dans un hôtel de fortune parisien oublié. Et déjà très prématurément vieillie à 57 ans, c'est un répertoire très riche, 200 chansons, beaucoup de chansons originales où à la fois elle invoque évidemment tout le registre poétique kabyle relatif à la nature, aux oiseaux, à la montagne, mais surtout à tous ces hommes qui abandonnent ces femmes. Mon destin, où es-tu parti? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pose ta valise. Je ne suis jamais en train de chanter, dit-elle dans une de ses chansons. Je raconte ma pauvre vie stérile. Ça, c'est Hnifa. Mais revenons à Kamel Ahmadi. Kamel Ahmadi, ça va vraiment être l'un des plus grands auteurs et compositeurs, chanteurs, vous avez entendu sa douce voix. Et il se joue avec lui quelque chose de très beau, c'est que après avoir beaucoup écrit pour Hnifa, il va faire la connaissance d'une chanteuse algérienne, Noura, qui n'est pas kabyle, qui n'est pas née dans cette culture, qui ne parle pas cette langue. Ils vont devenir des partenaires musicaux, mais aussi dans la vie, il va l'épouser. Et de cette histoire d'amour, en fait, très chérie des Algériens, mais surtout des kabyles, va naître un répertoire très beau en langue kabyle, et Noura sera la première chanteuse algérienne à se produire aussi bien en arabe qu'en kabyle, alors qu'elle n'est pas elle-même issue de cette culture, un très beau témoignage d'amour et aussi une forme de réconciliation incarnée dans cette chanteuse entre ces deux cultures qui évidemment coexistent mais qui entretiennent une relation très difficile. La voix de Noura. La voix de Noura, cette chanteuse portée par l'amour et qui sera devenue kabyle de cœur et qui entre dans le cœur des kabyles en Kabylie, alors qu'ils sont minoritaires, rappelons-le, mais des kabyles aussi en France d'ailleurs. L'une des voix, l'une des entreprises les plus célèbres des années 70-80, on est dans la deuxième génération, et bien elle vient justement, non pas d'Algérie, de Tizi Ouzou, mais d'Épinay-sur-Seine, où va se créer en 79 le groupe Djourdjoura. C'est une famille, trois sœurs, Djoura, Malha, Fatima Abouda, leur frère Djamel, qui est compositeur et guitariste, et leur mère, Tassadit Abouda, qui est poétesse de tradition orale, qui vont fonder ce groupe. Ils sont, c'est une famille d'émigrés kabyles en France. Créer un groupe baptisé Djourdjoura, en l'honneur de cette très longue, la plus longue chaîne de montagnes de la Kabylie. Un groupe qui se présente comme un groupe féministe, justement, et qui essaye de faire fusionner modernité, folk, pop-rock. Je vous rappelle qu'on est en plein mouvement de renouveau folklorique en France. D'ailleurs, il va y avoir des collaborations avec des personnages assez emblématiques de ça, notamment Alan Stivell, le fameux créateur du renouveau celtique. Ce groupe va mélanger donc tradition orale kabyle et thématiques instruments et structures pop-rock, avec des thématiques évidemment féministes, mais aussi politiques, des poèmes d'inspiration sociale qui chantent à la fois la force, l'intelligence et l'engagement des femmes kabyles. Djourdjoura, une entreprise qui aura beaucoup de succès, même si ensuite les sœurs, en tout cas la famille, se fâchent. Donc le groupe va changer de nom et c'est l'une des sœurs qui reprendra le flambeau. Mais écoutez les paroles de cette chanson dont vous entendez, vous voyez bien la fusion musicalement, mais concrètement cette identité très concrète dans la voix. Cette chanson s'appelle « Je ne suis pas une chose à regarder ». Je sais, c'est comme ça que je te plais avec mes yeux noirs. C'est comme ça que je te plais. Chaque jour, tu me dis que je suis le bouquet dans la prairie. Mais sais-tu que les fleurs meurent ? Mes yeux sont dévorés de mille flammes que rien ne peut éteindre. La souffrance se lit dans mon regard, tel ce feu vorace qui gronde en moi. Le mal est trop profond dans ma chair, mes yeux sont à peine ouverts, que l'on m'impose le mariage. Évidemment, elles sont très nombreuses, les femmes kabyles, à chanter, à pleurer cette difficile condition féminine. Dans un article absolument génial, d'ailleurs, on dit que ces chanteuses et leurs voix sont devenues de véritables séances de thérapie pour des femmes souvent cloîtrées chez elles. Elles apprenaient par cœur les chansons de ces divas et les fredonnaient continuellement pour se donner leur courage et apaiser leur affliction. Les larmes se confondent avec ces voix de femmes qui se sont libérées, même si le prix de cet affranchissement a souvent été leur vie. Une nouvelle génération, évidemment, débarque dans cette atmosphère. Les chanteuses nées plus tard, dans les années 50 ou 60, vont bouleverser un peu les codes. C'est le cas, par exemple, de Massa Bouchafa, qui néanmoins, un peu comme Noura, justement, aura une vie moins difficile que les autres, puisque c'est son manager et mari qui va l'encourager, composer la plupart de ses morceaux. Elle est originaire du village d'Azrou, dans le Walia de Tizi Ouzou. Elle va se produire et rester encore jusqu'à aujourd'hui une des plus grandes chanteuses kabyle. Elle va imposer le costume traditionnel coloré et elle va être l'une des grandes voix de ce printemps berbère en 1989. Des chansons extrêmement, on va dire, joyeuses, beaucoup de tubes pleins d'optimisme, mais aussi plusieurs chansons d'amour. Écoutez. Celle qui va, d'une certaine manière, amorcer la dernière génération de chanteuses kabyles. Il y en a encore de si nombreuses, on ne pourra toutes pas vous les donner à entendre. Elle s'appelle Malika Domran, qui, dans la même catégorie, hein, évidemment, que la voix que vous entendiez à l'instant, celle de Massa Bouchafa, va évidemment, dans un contexte des années 80 puis 90, très hostile à la Kabylie, représenter véritablement un phare dans la nuit. Malika Domran, qui a aujourd'hui 70 ans, mais qui a accompagné, qui continue d'accompagner les Kabyles des deux côtés de la Méditerranée. On va l'écouter raconter ce rapport fondamental, principiel à cette langue kabyle qu'elle entend sauver et la manière dont, tout en l'épousant, en la défendant, elle a réussi à lever les derniers tabous qui existaient encore, notamment sur la question des textes, de ce dont on peut parler quand on est une femme kabyle qui chante. Malika Domran, qui a ouvert la voie finalement à cette dernière génération de chanteuses kabyles qui continue d'exister aujourd'hui et de défendre un patrimoine qui reste essentiellement rural. Malika Domran, l'une des plus grandes divas kabyles.
On ne peut pas m'empêcher de parler ma langue ou d'étudier ma langue maternelle. C'est vital, on ne peut pas renier sa mère, on ne peut pas renier ses aïeux, on ne peut pas renier sa terre natale. Ceci dit, je ne dis pas que je ne suis pas algérienne, mais je suis une vraie algérienne et je le revendique et je suis fière. Je suis une Africaine, je suis maghrébine et je suis algérienne. Moi, je suis contre personne. Je ne vais pas être une extrémiste. Mais on nous oblige, on nous contraint à devenir des extrémistes. On ne peut pas nous empêcher de s'exprimer dans notre langue. Ça, c'est pas possible. C'est un suicide. Et donc, c'est pour ça que je vous disais dans toutes ces chansons-là, il fallait faire une diversité de thématiques. Donc je m'occupais un petit peu des problèmes que je ressentais à travers mes malades, à travers mes anciennes copines du lycée. Il y a beaucoup de gens qui venait me voir, il me prenait certainement pour un psychiatre ou je ne sais pas quoi. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Donc, on me racontait des problèmes. Et moi, et par rapport aussi à mon vécu, donc je fais ça. Par exemple, dans la langue kabyle, il y a des tabous. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire crûment. On fait des métaphores. Mais je suis quand même arrivée à m'imposer. Et ça passait dans les foyers. Je citais le cas de la bougie qui se consume. C'est très sensuel, c'est très, très érotique. Mais c'est fait d'une façon. Il y a même les fléchettes qui font les « ah » les anciens Claudettes. Ça passait très bien parce que c'est bien fait. Et je parlais aussi « mourir sur tes lèvres »,« mourir dans tes bras ». Ça passait très bien, le rêve d'adolescence. Que rêve un adolescent ? C'est un amour platonique, hein. C'est tout à fait cérébral, c'est innocent. Alors, donc ces choses-là, je les disais. Et je suis passée à un autre stade où je parlais de l'oreiller, parce que c'est un dicton kabyle qui disait « L'oreiller a juré de ne pas rassembler deux êtres beaux, mais beaux spirituellement, pas seulement physiquement, des gens qui s'entendent. » Et j'ai dit, j'ai contredit cet oreiller-là, j'ai dit « Chacun trouve chaussure à son pied et que chacun retrouve celui qu'il aime. » J'ai contredit cet oreiller, c'était dans le dernier couplet. « Qui regissoura ?»
قرب ضريماني صيد تغني تفلي قرب ضريماني صيد تغني تفلي نحمل غير ولني وصفق دي دلقين تشيني نحمل غير ولني وصفق دي دلقين تشيني ميعد سيل الفخفي صور القعيسي
Ce génial changement de tempo et la voix merveilleuse de la non moins merveilleuse Malika Domran, on aurait pu vous parler, vous donner à entendre évidemment les voix de Noara, de Zora, les voix de Wardia ou aujourd'hui de Ferrugia qui défend ce patrimoine plus vraiment à la radio mais beaucoup sur YouTube. On vous invite à aller découvrir tout ça. Cette série est à retrouver aux côtés de nos 11 autres épisodes de la série Diva, Les Grandes Voix. Merci mille fois à François Saint-Jour qui était au platine aujourd'hui, à Thomas Jost, le réalisateur de cette émission, ainsi qu'à Laura Dutèche-Pérez, l'attachée de production de la série musicale. N'hésitez pas évidemment à vous abonner au podcast de la série musicale sur toutes les bonnes plateformes et applis, mais on préfère toujours celle de Radio France. À la semaine prochaine.